cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 22 mai 85.
Nous étions restés au mégarique, hein, si vous vous souvenez bien, dans cette petite analyse que je fais rapidement pour le livre Theta de la métaphysique d'Aristote. Je soulignais hier, hein, cette petite remarque que fait Aristote au début de son analyse du livre Theta, puisque l'être se dit d'une part de ce qui est la chose, todéti, ou de ce qui est qualité ou quantité, et d'autre part de ce qui est selon la puissance et l'entelekeia, l'entéléchi, et selon l'œuvre. Alors comprenons, quand Aristote dit ça, il donne comme un petit résumé, si vous voulez, de deux grandes perspectives sur ce qui est, et que la philosophie, avant la philosophie première, puisque pour Aristote la philosophie première arrive en dernier lieu, donc ce que nous appelons métaphysique, arrive en dernier lieu. Aristote résume un peu. C'est ça qui est important à voir. Il sait que c'est l'effort dernier de l'intelligence, la philosophie première, et que c'est particulièrement difficile, et ça reste très difficile, pour nous peut-être encore plus que pour Aristote, parce qu'on a des montagnes de philosophes devant nous. Hegel, c'est l'Himalaya, tandis qu'Aristote, il n'avait guère que Platon. Mais c'est plus difficile de dépasser Hegel que Platon. Ça, sûrement. Platon, c'est quand même agréable à lire. Tandis que Hegel, je ne sais pas si vous dites que c'est agréable à lire, moi je trouve que c'est difficile à lire. Et au fond, les situations sont un peu semblables. Il s'agit de redécouvrir pour nous la distinction de l'être et du devenir. Est-ce possible? Pouvons-nous encore, dans notre monde d'aujourd'hui, affirmer une métaphysique, bien qu'elle ne soit plus sur le marché? On vend des radis, des navets, des pommes de terre, des choses. On ne vend plus de métaphysique, ça ne se vend plus. C'est plus sur le marché. Donc si c'est plus sur le marché, terminons. C'est fini. Ça a eu lieu à un moment donné, au Moyen-Âge, c'est pas étonnant, c'était l'âge des théologiens. Alors les théologiens, ils étaient métaphysiciens par naissance. Ils aimaient la métaphysique. Les Grecs, oui, c'est pas étonnant, ils étaient naïfs. Mais aujourd'hui, on est hypercritique. On peut plus, la métaphysique, ça peut plus. Ça peut plus se faire. Alors, vous voyez, heureusement qu'il y a eu Heidegger. À ce point de vue-là, il faut reconnaître. Hein. Heidegger est quand même quelqu'un qui dit: tant que l'intelligence ne pense pas l'être, l'intelligence n'est pas intelligence. Si vous restez dans le domaine des étangs, c'est très très bien, mais alors soyez des savants. Les savants disent plus sur l'étang que les philosophes. Le philosophe, il est fait pour l'être. C'est courageux de la part de Heidegger d'avoir dit ça, c'est courageux. Alors, il l'a dit à sa manière, mais c'est quand même courageux. Alors, nous comprenons cette petite phrase d'Aristote pour nous introduire dans une recherche difficile, puisque c'est le sommet, l'être en acte. Alors, pour nous y introduire, vous voyez, on se sert d'un tremplin. C'est très intéressant de bien comprendre quel est ce tremplin pour Aristote, et puis ensuite pour nous, ce que nous verrons après. Aristote, ça nous sert, hein, un petit peu, si vous voulez, de modèle, on dirait ça, d'archétype. C'est quand même un archétype, Aristote. Alors, on voit que Aristote résume toute la pensée philosophique avant la philosophie première, avant d'entrer en métaphysique, comme deux visions sur l'être. Et ça, c'est très fort. Hein. Avant de chercher ce qu'est l'être pour lui-même, il y a deux visions. Il y a la vision des catégories. On dit
en mouvement, c'est-à-dire substance et qualité. Et c'est quoi ? Il y a les philosophes de la substance et les philosophes de la qualité. Et puis on divise l'être, l'être en acte, l'être en puissance, l'être selon l'œuvre. C'est très intéressant de voir une division qui se fait comme ça, l'être en acte, l'être en puissance, l'être selon l'œuvre. Mais c'est quand même curieux, il y en a trois ici, et il y en a deux ici. Oh, mais il y en a trois aussi, parce que je peux mettre la quantité. Et d'une certaine manière, il y en a plus que deux, donc il y a tous les autres. Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez mettre 9. Il y a toutes les distinctions. Tandis que là, il y en a 3. Alors, il faut comprendre que toute la philosophie antérieure à la philosophie première, dans sa recherche, de fait, se ramène bien à ces deux grandes visions, ces deux grands axes. L'axe des déterminations. Aux dix catégories, donc les prédicaments, l'axe des déterminations. Les déterminations, c'est-à-dire des modalités particulières de l'être au niveau des déterminations. Et puis, un autre axe très différent, l'être en acte et l'être en puissance, ou l'œuvre, qui sont comme les évidents, les manières d'être les états, dans lesquels se trouve la réalité. Vous trouvez cela au niveau proprement éthique, au niveau du factuel. C'est deux grands axes, hein, c'est deux grands axes, parce que bon, ce sont ces deux grands axes que Aristote va creuser. Le Zétan va creuser cet axe-là pour découvrir en définitive ce qu'est la substance. Comme principe propre de ce qui est. Et on va étudier ce grand axe pour essayer de voir comment l'être en acte est aussi principe propre de ce qui est. Mais comprenons que ces deux aspects-là sont comme le résumé de toutes les études précédentes. Un résumé très très fort. Et intéressant à ce point de vue-là. Un résumé de toutes les études précédentes, c'est-à-dire éthique, l'étude de la poétique, l'étude de la politique, l'étude de la philosophie de la nature et l'étude de la philosophie du vivant. Alors, comprenons que l'éthique, la politique, la poétique, implique bien cette division. Si vous analysez rapidement hein, ce que représentent ces différents aspects de la philosophie, car ils sont vivants, vous retrouvez toujours l'être en acte, l'être en puissance. Alors, on va noter tout simplement, hein, très rapidement, pour que vous compreniez comment ce que nous dit Aristote là est le résumé de toute une enquête philosophique précédente. Et alors, si je le prends comme ça, comme une conclusion, on ne voit pas très bien ce que ça signifie. Mais il faut comprendre que cette conclusion présuppose tout ce qui est dit avant. Alors, au niveau éthique, toute l'éthique est commandée par la découverte de la finalité. Or, la finalité, c'est quand je découvre ma finalité, je découvre mon bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est l'homme qui est uni à son bien. Alors vous découvrez l'être en acte, l'entelekeion. L'entelekeion. L'entelekeion, vous le saisissez en premier lieu du côté de l'opération éthique dans le bonheur. Mon bonheur, ça dépend dans quoi je le mets. Je ne regarde pas ça ici. Le bonheur, c'est toucher le bien qui m'épanouit. Un être parfaitement épanoui, il est entelekeia. Oui, un être parfaitement épanoui. Une pivoine. Il y a des êtres qui sont des pivoines vivantes. Parfaitement épanoui. Merveilleux. Entelekeia. Mais avant d'être entelekeia, c'est-à-dire avant d'être parfaitement en acte et d'atteindre sa fin, il y a un cheminement. Donc, il y a celui qui est en puissance, celui qui est en devenir, celui qui est en recherche. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ça fait bien d'être en recherche. Ben, celui qui est en recherche n'est pas intelligent. Celui qui est en recherche, il est encore avec des tâtonnements, il ne sait pas exactement. Donc, on voit bien au niveau éthique deux états particuliers. Celui qui est en recherche, celui qui a découvert son bien. Au niveau poétique, c'est bien évident, il y a l'œuvre. Vous voyez que le point de vue poétique est présent, l'œuvre. Le poète, il a une idée, puis il réalise une œuvre. L'artiste, il réalise une œuvre. Et puis, avant l'œuvre, il y a la matière. La matière sur laquelle je vais œuvrer. Donc, je vois bien deux états. L'œuvre qui est la fin, et puis la matière qui est une attente. Et c'est vrai, je ne parle pas de l'inspiration, oui, je prends simplement l'œuvre et la matière. L'œuvre est du côté de l'acte. Du point de vue politique, on retrouve quelque chose de semblable, il y a le bien commun. Et puis, il y a le fait de l'homme qui coopère à ce bien commun et qui n'est pas encore dans ce bien commun. Donc, je retrouve deux états. C'est toujours la distinction des deux. Un état d'imperfection, un état de perfection. Au point de vue de la philosophie de la nature, c'est le mouvement. Le mouvement fait d'une certaine manière ce qui est mu. Ce qui est mu. Ce qui est mu implique acte et puissance. En même temps, la philosophie du vivant implique elle aussi l'opération, qui est acte et puissance. Alors, je suis ici dans l'ordre du devenir. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 modalités du devenir. 5 modalités du devenir. Et dans ces 5 modalités du venir, vous trouvez la distinction au niveau descriptif. Ce qui est parfait, ce qui est imparfait. Ce qui est en acte, ce qui est en puissance. Oui, je crois que c'est ça qui permet à Aristote de donner tout de suite cette distinction. La distinction, l'être en acte, l'être en puissance, l'être selon l'œuvre. C'est à l'intérieur du devenir, et c'est dans le devenir, que je découvre une modalité de ce qui est achevé et ce qui n'est pas achevé. Un étudiant, il est en devenir vis-à-vis de la connaissance. Et le jour où il enseignera, on décrétera qu'il sera en acte. Vous voyez ?
Parce que c'est comme ça qu'Aristote dit que c'est celui qui enseigne, il est en acte. Pour pouvoir enseigner, il faut être en acte, puisque l'enseignement est une certaine fécondité. Donc, il faut être en acte pour pouvoir enseigner. L'être en devenir, l'être en acte. Ceci, c'est présupposé. Et alors, je me pose la question, puisque c'est le devenir. Or, le devenir, il existe. Donc, si toutes les modalités du devenir impliquent cela, il faut nécessairement découvrir ça dans l'ordre de l'être. D'où la question, qu'est-ce que c'est que l'être en acte ? Vous voyez comment c'est une préparation, c'est une merveilleuse préparation. Toutes les parties de la philosophie préparent la philosophie première. C'est organique ça, c'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. Nous, nous sommes habitués de dire, on va entrer en métaphysique. Bah, très bien, on va entrer en métaphysique. Mais pourquoi vous entrez en métaphysique ? C'est parce que ces 5 modalités du devenir sont une attente de la métaphysique.
Je ne peux pas expliquer parfaitement ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que l'ordre, ce que c'est que l'aspect du bien commun, ce que c'est que le mouvement, ce que c'est que l'opération vitale, si je ne vais pas jusqu'à l'être. Donc moi, je m'arrête. Et la distinction de l'être en acte et d'être en puissance au niveau du devenir demeure uniquement descriptif. C'est ça qui me semble important à souligner. C'est pas commode, hein, ça me dit ça d'un seul trait, comme ça, comme si ça allait de soi. Comme toujours, Aristote présuppose qu'on est très intelligent. On est en devenir intelligent. On n'est pas encore... Il y a encore du progrès à faire. On n'est pas encore assez en acte. Alors, on est en devenir. Donc, comprenez bien ce point de vue-là. Ensuite, nous allons alors continuer, si vous voulez, cette petite étude en voyant comment, de fait, Aristote commence par l'étude, pour entrer dans ce que c'est que l'être en acte, il commence par l'étude de la dunamis. Donc, ce que c'est que la puissance. Ici, évidemment, ça présuppose toute la connaissance de Platon. Comme Aristote présuppose, hein, les élèves, les étudiants d'Aristote connaissent Platon. Ça, c'est sûr, c'est l'arrière-fond. C'est le fond sonore, hein, qui répète tout le temps. Platon, c'est ça derrière, c'est la grande montagne par derrière Platon. Alors, dans Platon, la dynamisme, c'est le sommet de l'être. On ne peut pas aller plus loin. Très très curieux quand Platon considère que dynamis, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Qu'est-ce que c'est? Traduisez dynamis, puissance. C'est comme ça qu'on traduit habituellement. La puissance. Les biceps. Le sportif. Hein, s'élever. Des poids extraordinaires. Voilà sa puissance. Vous pouvez traduire sa puissance. La puissance d'un être, c'est sa capacité d'efficacité. La capacité qu'on a à agir sur un autre. Dans la mesure où on est capable d'agir sur un autre et de mettre son empreinte sur un autre, ah, c'est la puissance. Mais c'est de l'ordre de l'efficacité. Et pour Platon, l'efficacité, j'allais presque dire, est au-delà de la finalité. Est-ce que l'efficacité, c'est ce qu'il y a de suprême? Des quantités de philosophies considèrent que l'efficacité, c'est le sommet. Soyez efficace. Dans la philosophie de Nietzsche, est-ce que l'efficacité n'est pas ce qu'il y a de plus fort? Volonté de puissance. La volonté de puissance, est-ce que c'est pas la dynamis? Est-ce que ce n'est pas la dynamis, la volonté de puissance? Volonté de dominer. La créativité, quand vous mettez la créativité au-dessus de tout, aujourd'hui c'est ce qu'on fait, la créativité. Est-ce que ce n'est pas l'efficacité? Capable de changer, d'être là pour tout transformer. Dès qu'il est là, immédiatement tout est transformé. C'est comme un grand chef dans une forêt, il crée un milieu. Chef dans une forêt, qu'est-ce qu'il veut le plus? Volonté de puissance. Il vous dira ça. Si vous l'entendez bien, il crée un milieu autour de lui. Et puis il domine. Il domine tout. Cette volonté de puissance et l'efficacité. C'est intéressant, ce serait très intéressant de mettre en parallèle hein, dans Nietzsche, Platon. Notre Platon moderne, hein, Nietzsche. Et c'est vrai, c'est d'une certaine manière un Platon moderne étonnant dans la créativité, qu'il essaie de reconstruire tout dans cette volonté de puissance. Et vous trouvez volonté de puissance, c'est d'autant plus intéressant de voir ce point de vue de la puissance, de la dynamisme qui est présente. Alors, ça montre, voyez, combien ces choses-là sont toujours les mêmes. Hein. Est-ce que vous devez considérer que la dynamisme, c'est le maximé d'aller dans l'ordre de l'être? C'est le sommet dans l'ordre de l'être. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Est-ce que vous pouvez percer ce plafond de l'efficacité? Ou est-ce que vous ne pouvez pas? Vous êtes en face de quelque chose qui vous domine complètement. Et l'efficacité demeure l'entelekeia. C'est-à-dire l'être en acte au maximum. C'est pour ça qu'Aristote donc va essayer de relativiser la puissance. C'est toujours ce qu'on doit faire hein, quand on est en face de quelque chose qui nous apparaît comme un sommet, montrer que ce n'est pas un sommet. Comment montrer que ce n'est pas un sommet? La petite fronde. Je relativise. La puissance se dit de multiples manières. Ça a l'air de rien, mais c'est très intéressant. La puissance se dit de multiples manières. Il y a diverses manières de parler de la puissance. S'il y a diverses manières de parler de la puissance, ah, peut-être que par là, on pourra voir que la puissance n'est pas premier. Parce que ce qui est premier, par définition, il est un. Il est un. La puissance n'est pas une. La puissance se dit de diverses manières. Alors, voyez qu'ici, Aristote rejoint les catégories. La puissance fait partie des catégories. Pour Aristote, la dynamis fait partie des catégories. C'est la catégorie qualité. La dynamis, c'est une des catégories qualité. Or, la qualité n'est pas première, elle est relative à l'usia. Elle est relative à la substance. Mais Aristote ne va pas prendre ça, ce serait trop facile, ce serait revenir aux catégories. Or, il ne veut pas revenir aux catégories, il veut essayer de découvrir une autre dimension dans l'ordre de l'être. Pas uniquement la détermination, il veut découvrir autre chose. Et c'est pour ça qu'il étudie la puissance pour elle-même, sans la relativiser à la substance. Il étudie pour elle-même, il montre tout de suite que la puissance a diverses modalités. Et dans ces diverses modalités, on va donc essayer de comprendre quel est ce qui est premier? Pas plus, il constate cela. Puis deuxièmement, face à Platon, il regarde les mégariques. Les mégariques sont ces philosophes qui considèrent que la puissance n'existe pas. Ah, c'est encore mieux ça. On est en présence de ceux qui disent non, n'existe que l'acte. Les existentialistes de ce temps. Très bien comparer les mégarites aux existentialistes d'aujourd'hui. C'est tout à fait la même chose. C'est très proche. On regarde uniquement l'aspect, si vous voulez, acte, en disant il n'y a pas de capacité derrière. Aristote affirme face aux mégarites, il arrive qu'une chose ait le pouvoir d'être, mais ne soit pas, ou qu'elle ait le pouvoir de n'être pas, et soi. Ça, c'est la dynamite métaphysique pour les mégarites, n'est-ce pas ? Pour le dounaton. Là, vous voyez, c'est là qui est intéressant. On passe de la dounamis à la dounaton. C'est le pouvoir. Quelle différence est-il entre le pouvoir et la puissance ? Dounaton, c'est le pouvoir d'être. Possibilité dans la table. Possibilité, c'est pas potentia. La dynamisme nous conduit au dynaton. Face aux mégariques, on va pas parler. Les mégariques refusent la dynamisme. Et on va réintroduire la dynamisme par dynaton. C'est très astucieux, ça. C'est très fin, si vous voulez. C'est très intéressant de voir le passage de dounamis à dounaton. J'essaie d'expliquer un tout petit peu pour que vous voyez bien. Dounamis, c'est la puissance d'efficacité à l'égard d'un autre. Capacité d'agir sur un autre. Voilà la dounamis. Tandis que dounaton, c'est pas du tout la même chose. C'est par rapport à moi-même. Pouvoir d'exister ou de ne pas exister. Capacité d'être ou de ne pas être. Par rapport à moi, c'est au niveau de l'être, dounaton. Tandis que dounamis, c'est au niveau de l'efficacité et de l'agir. Donc, on passe du domaine du mouvement, de l'efficacité, à une recherche plus intérieure, plus philosophique et plus métaphysique, le possible. C'est très astucieux d'avoir mis en parallèle dynatome et dynamisme. Ça, je vais vous le dire là-dessus. Le passage de dynamisme à dynatome. Donc le passage de la capacité d'agir sur un autre, dynamis, à la capacité d'être ou de ne pas être. On passe du devenir à l'être. Dynamis, c'est au niveau du devenir, dynatome, c'est au niveau de l'être. Alors vous voyez ce que ça veut dire, hein? Les mégariques refusent la puissance parce qu'ils refusent la considération de l'être. Ce sont des positivistes. Ils ne regardent que le fait d'exister. Et ils n'analysent pas le fait d'exister. Le fait d'exister peut être différent, peut être purement contingent, ou ils peuvent impliquer une nécessité. Et donc il faut aller au-delà du fait d'exister pour découvrir sa modalité propre. Or, pour découvrir la modalité propre du fait d'exister, il faut regarder dynatome. Il faut regarder la capacité d'exister. Il arrive, c'est une petite phrase qui est très importante, il faut y réfléchir, il arrive qu'une chose ait le pouvoir, dynatome, le pouvoir d'être, mais ne soit pas. Ou qu'elle ait le pouvoir de ne pas être, mais soit. Vous voyez ? On ne regarde plus uniquement le fait d'exister, on veut analyser la manière dont ce fait d'exister va se présenter. Et va se présenter comme impliquant le pouvoir d'être, ou au contraire le pouvoir de ne pas être. Vous existez, vous existez. Est-ce que vous avez en vous un pouvoir de ne pas exister ? Est-ce que vous avez en vous un pouvoir d'exister ? Si je veux analyser vraiment la manière dont nous existons, la manière du fait d'exister, pour ne pas rester uniquement en face d'une donnée, mais essayer d'analyser cette donnée, alors apparaît le pouvoir. Le fruit d'une analyse me fait découvrir le pouvoir d'être ou pas être. Après avoir montré la nécessité de maintenir la distinction entre puissance, principe, pouvoir, et l'acte, Aristote souligne. Donc c'est simplement ce qu'il veut montrer. Je ne peux pas être mégarique. Petite tentation. Je ne peux pas être mégarique si je veux être philosophe. Vous voyez, le problème, à ce point de vue-là, est très intéressant parce qu'il est parallèle à notre monde d'aujourd'hui. Je vous ai dit, Platon, les mégariques, mettez les mégariques ici, et puis les existentialistes. Or, de fait, nous nous trouvons en face de Hegel et des existentialistes. Et on veut dire saint Thomas est existentialiste. Position de Gilson. Pour bien montrer qu'on n'est pas hegelien. Mais non, saint Thomas n'est ni existentialiste ni hegelien. Ce qu'il y a derrière lui, métaphysique. La métaphysique n'est ni existentialiste ni hegelienne. Elle est au-dessus. Pourquoi ? Parce que les existentialistes ne regardent que le fait d'exister, pas plus. Ils regardent uniquement le fait d'exister. Regardez, parmi les existentialistes, prenez Gabriel Marcel. Une tête de Turc. Hein. Alors vous avez Gabriel Marcel. Regardez Gabriel Marcel. Gabriel Marcel décrit la fidélité. C'est très très beau, c'est magnifique de décrire la fidélité. Mais qu'est-ce que c'est la fidélité ? Il la décrit. Il fait du théâtre. Il décrit ce que représente la trahison. Il décrit le bien et le mal. Il décrit. Et toute la philosophie de Gabriel Marcel reste au niveau existentialiste parce qu'il décrit. L'existentialisme ne fait que décrire. Il n'a n'analyse pas. Et la philosophie hegelienne, elle, au contraire, la philosophie des idées. C'est très vrai que de Hegel, la réaction contre Hegel, c'est l'existentialisme. C'est l'anti-hegelianisme. Mais l'anti-hegelianisme n'est pas la métaphysique. Vous voyez, vous retrouvez, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que Aristote s'est trouvé en face de Platon et des mégariques, nous nous trouvons en face de Hegel et des existentialistes. C'est la même position. Alors, vouloir dépasser Hegel en étant existentialiste, c'est pas suffisant. Dire saint Thomas est existentialiste, donc il n'est pas hegelien, c'est pas suffisant. Parce que saint Thomas n'est pas existentialiste. Il est plus, parce qu'il essaie de saisir ce qu'est l'être. Un existentialiste ne dirait jamais cette phrase de saint Thomas, « Primo cadit in intellectus ens ». Ça, c'est une affirmation qui ne peut pas se comprendre au niveau existentialiste. Un existentialiste dirait « Le fait d'exister, il y a des réalités qui existent. C'est un donné. Je peux décrire, je ne peux pas analyser. Je ne peux pas aller plus loin. » Oui. Tandis que saint Thomas veut essayer de comprendre ce que c'est que l'être. Et c'est là le dépassement par rapport à l'existentialisme et par rapport à Hegel. Après avoir montré la nécessité de maintenir la distinction entre puissance et acte, entre pouvoir d'être et le fait d'exister, Aristote souligne le nom d'acte. C'est intéressant parce que ça, c'est la petite réflexion d'ordre de l'étymologie. Et c'est toujours intéressant de voir ça. Le nom d'acte, énergéia. Vous voyez qu'ici, Aristote distingue énergéia de entelekeia. C'est pour ça que je vous cite ce petit passage. Le nom d'acte, énergéia, rapporté à l'entéléchi, rapporté à entelekeia, s'est étendu à d'autres choses, principalement à partir des mouvements, car il semble que l'acte soit avant tout mouvement. C'est pourquoi le fait d'être mu n'est pas attribué aux réalités qui n'existent pas, mais certaines catégories sont attribuées au non-être, comme être intelligé, être désiré, mais non pas être mu. Mais comme c'est intéressant cette petite remarque d'Aristote. Cette petite remarque d'Aristote montre que l'énergéia, l'être en acte, rapporté à l'entelekeia, ne peut pas se séparer de l'exister. Fondamentalement, quand vous dites qu'une réalité est en acte, vous dites « elle existe ». Et quand vous dites, quand vous parlez de entelekeia, ça implique l'exister. Donc Aristote fait le lien ici entre trois aspects. Entelekeia, energeia et l'exister. Pour montrer que je ne peux pas attribuer l'être en acte à ceux qui n'existent pas. Tandis que je peux attribuer être intelligé, être désiré à des réalités qui n'existent pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent dans cette petite remarque d'Aristote ? C'est qu'Aristote, de nouveau, nous fait comprendre que l'intelligibilité est autre chose que l'être en acte. L'être en acte implique l'exister, tandis que être intelligé n'implique pas immédiatement le point de vue de l'acte. Vous voyez comme c'est intéressant. Aristote nous montre que les 10 catégories faire l'intelligibilité. Puisque nous avons vu que les 10 catégories impliquent le taux, ti, m et ina, vous devez connaître ça. La quiddité. Les 10 catégories donnent les diverses modalités d'intelligibilité. Mais ces diverses modalités d'intelligibilité ne nous disent pas l'exister. Seul l'être en acte nous dit l'exister. Et ça, c'est très intéressant de bien montrer ce point de vue-là. Les catégories, si vous ramenez l'être aux catégories, vous pouvez encore identifier être et intelligibilité. Ce n'est qu'en découvrant l'être en acte que vous pouvez alors dépasser, ou plus exactement reconnaître, que l'intelligibilité n'est pas l'être en acte, que l'intelligibilité n'est pas l'exister. Autre chose est dire « chat » et dire « ce chat existe hein, ». Comme dit Kant, tu sais, quand il dit « autre chose est de dire « sans talent » et de dire « j'ai dans ma poche 100 francs ». Pas la même chose. Vous pouvez penser une fortune. Et ce n'est pas parce que vous la pensez qu'elle existe. Alors vous pouvez rêver sur les 100 francs. Mais l'important, c'est qu'ils existent. Vous voyez, l'intelligibilité est au niveau des catégories. Vous pouvez penser la montagne d'or. L'intérêt, c'est qu'elle une petite remarque très simple et qui montre tout de suite qu'est-ce que va nous permettre de comprendre l'être en acte. La distinction fondamentale entre l'être qui existe et l'être intelligent. Alors après la critique des mégariques, Aristote aborde de nouveau la question des diverses modalités de la puissance. Je dépasse, c'est pas, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'il revient sur la dynamis. Hein. Ces diverses analyses de la puissance et c'est de ces différentes modalités, de ces conditions d'exercice, de sa primauté montrent qu'on ne peut parler de la puissance qu'en présupposant l'acte. Ça, c'est un passage très important. Je ne peux pas parler de la puissance sans regarder l'acte. Pourquoi ? Parce que la puissance n'est connue que par l'acte. Une capacité d'opérer n'est connue que quand je regarde l'opération elle-même. Quand vous dites de quelqu'un, il est vertueux. Vous ne pouvez dire qu'il est vertueux que si vous avez vu qu'il posait des actes vertueux. Quand vous dites que quelqu'un est capable de voir, vous ne pouvez dire cela que quand vous avez vu qu'il voyait. Donc il y a là le passage très intéressant qui donne en partie raison aux mégariques. Les mégariques ont d'une certaine manière raison, c'est vrai. C'est le fait d'exister, c'est le fait d'être en acte qui me permet de connaître la puissance. Donc les mégariques disent quelque chose de plus vrai que Platon. Et nous dirions-nous, les existentialistes disent quelque chose de plus vrai que Hegel. Je peux me servir des existentialistes, je ne peux pas me servir de Hegel. Je peux me servir des mégariques, je ne peux pas me servir de Platon. Vous voyez, ce petit, c'est intéressant quand on est en face de deux qui ont deux positions extrêmes, laquelle de ces deux positions extrêmes est la plus proche de la vérité ? Est-ce les existentialistes ? Est-ce Hegel ? Est-ce les mégariques ? Est-ce Platon ? Eh bien, c'est les mégariques. Ils vont moins loin, mais ils disent quelque chose de plus immédiatement vrai. La puissance ne peut être connue que par l'acte. Donc il faut regarder d'abord l'acte. Il faut regarder d'abord les réalités qui sont, qui existent, avant de regarder les possibles. Il y a des gens qui regardent toujours les possibles avant de regarder l'acte. C'est un peu énervant, du reste, au bout d'un certain temps. Quand ils sont dans une situation difficile, « Ah, s'il y avait ça, ce serait... » Ben oui, très bien. Alors, laissez marcher l'imaginaire. Hein. Vous êtes dans les possibles. Non, regardons la réalité. Et à partir de la réalité qui est en acte, vous regardez les possibles. Les possibles ne sont intéressants qu'à partir de l'acte. Si vous regardez les possibles pour eux-mêmes, vous ne rejoindrez jamais l'acte. C'est ça qu'Aristote veut faire comprendre. Si vous regardez uniquement la dunamis à la manière de Platon, vous ne rejoindrez jamais le fait d'exister. Si vous partez de Hegel, vous ne rejoindrez jamais la réalité qui existe. Vous resterez dans les idées, vous resterez dans les possibles. Donc ce petit moment est très important, parce que c'est là où on voit l'orientation d'une philosophie réaliste. Face à Platon et aux mégariques, face à Hegel et aux existentialistes, lequel est le plus proche de nous ? C'est ceux qui regardent en premier lieu le fait d'exister, la réalité qui existe. Si vous regardez en premier lieu les possibles, vous ne rejoindrez jamais l'acte. Vous aurez un labyrinthe des possibles. Et les possibles, c'est toujours un labyrinthe. Vous pouvez toujours augmenter le labyrinthe. Et dans l'histoire de la philosophie, vous augmenterez le labyrinthe en essayant de voir de nouveau une orientation des possibles dans telle ou telle chose. Et vous oublierez le réel. Alors, une fois qu'on ne peut connaître le possible que par l'acte, on va de nouveau regarder les diverses modalités de l'acte pour saisir ce qu'est l'être en acte. Voici quel est le point de départ de cette recherche, après avoir fait cette étude un peu laborieuse sur la dunamis et les rapports du fait d'exister et le point de vue de la dunamis. Il faut donc considérer maintenant ce qu'est l'acte et quel il est. Alors ça, c'est important à bien voir. Le ti esti de l'acte et le poionti de l'acte. Qu'est-ce que c'est que l'acte ? Et vous voyez qu'Aristote se pose la question du ti esti de l'acte. Ça va poser pour nous une question. Le ti esti de l'acte, quand on s'est posé le ti esti de la substance, on se pose le ti esti de l'acte. Et on se pose le poionti. Ce qu'Aristote ne faisait pas lorsqu'il s'agissait de la substance. C'est très curieux que quand il s'agit de l'acte, on se pose tout de suite, en même temps, la question « Qu'est-ce que c'est que l'acte ?» et « Quel il est ?» Le poionti, et c'est l'aspect de la qualité. L'acte est lié à la qualité. Et d'une certaine manière, l'acte ne se sépare pas de la qualité. Alors ça, c'est une question très très difficile à bien saisir. Le ti esti de l'acte et le poionti de l'acte, les deux grandes interrogations. Alors voici quel est le point de départ de cette nouvelle recherche. Le fait d'exister pour la réalité est acte. Voici ce que dit Aristote. Hein. Toujours donc dans ce livre, dans du livre Theta. Le fait d'exister pour la réalité est acte. Car il n'est pas à la manière de ce que nous disons être en puissance. C'est presque une tautologie. Hein. Par exemple, nous disons qu'Hermès est en puissance dans le bois, la moitié dans le tout, parce qu'elle pourrait en être retranchée. Nous disons aussi que celui qui possède la science et ne contemple pas, bien qu'il en soit capable,
est en puissance, l'autre en acte. Donc nous revenons, si vous voulez, sur le langage, c'est-à-dire sur l'expérience. Retour à l'expérience, pour saisir ce que c'est que l'acte, le tiesti de l'acte et le poyonti, qu'est-ce que c'est que l'acte et la qualité de l'acte, on revient à l'expérience. Et on part du fait d'exister, vous voyez les mégariques, le fait d'exister pour la réalité est acte, c'est sûr, j'existe. Quand vous dites « j'existe », vous pouvez dire « j'existe, donc je suis en acte ». Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire hein? « J'existe, donc je suis en acte ». Cogito ergo sum. Cogito, c'est un acte. Ergo sum, c'est un acte. Ouais, là, Descartes dit quelque chose de juste. C'est le ergo qui peut-être hein, n'est pas tout à fait juste. Il aurait dit « je pense, je suis », sans préciser. Si je pense, nécessairement je suis. Parce que penser, c'est une opération. Toute opération implique l'exister. Tout vivant existe. Donc je peux passer de l'opération à l'exister. Ça, c'est typiquement aristotélicien, parce que c'est l'expérience. Comment saisissez-vous que vous existez? Parce que vous opérez. Ça ne veut pas dire que si vous ne pensez pas, vous n'existez plus. Ça, c'est un autre danger, n'est-ce pas, de dire, quand je dors, je ne pense plus, donc je n'existe plus.